Qu'est-ce que vous voulez ?
Te faire retrouver le bonheur.
Radio Campus.
Ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas, docteur ?
Ouais.
Radio Campus 88.3 FM. Le moulin à parole. Restitution de l'atelier radiophonique et paroles partagées. Le moulin à parole.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus 88.3. Nous sommes Camille,
Déborah,
Camille, des élèves du lycée Voltaire de la section ESOP seconde.
Avec notre classe, nous avons préparé l'émission Les jeunes face à l'info, diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3.
Émission enregistrée le 26 mai 2023.
Les programmes de cette émission seront la présentation de l'option ESOP, des revues de presse, des pauses musicales et une interview de Lucas.
Maintenant, nous allons accueillir Stephenson, Olivia, Samia, Marthe, Ambre et Elena qui vont nous présenter l'option ESOP.
ESOP. Bonjour à tous, nous sommes Stephenson,
Olivia,
Samia,
Marthe,
Elena,
Ambre.
Et aujourd'hui, nous allons vous parler de l'option ESOP.
Tout d'abord, que signifie l'acronyme ESOP ?
ESOP, ça veut dire enjeux culturels, société, oralité, politique et économie.
Très bien.
Marthe, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'ESOP ?
Tout d'abord, ESOP, c'est un dispositif qui n'existe qu'au lycée Voltaire. C'est, l'année est séparée en deux semestres, où cette année, nous avons pu étudier la presse, la liberté de la presse et tout ce qui est autour de la presse par une exposition virtuelle et une revue de presse.
Quand vous êtes entrée au lycée, à quoi est-ce que vous vous attendiez pour cette option ?
Au début, je pensais qu'on allait surtout parler de débats politiques, de voir justement un peu dans le journalisme et tout ça, mais voilà.
Moi, je pensais qu'on allait plus étudier tout ce qui est en rapport avec la culture et avec la politique, enfin, voilà.
Bah, pareil, surtout, la politique et beaucoup de culture générale sur des petits détails et des choses comme ça.
Et du coup, qu'est-ce que vous a appris ESOP ?
ESOP, ça nous a appris à monter toute une exposition virtuelle. Ça nous a aussi appris beaucoup de choses sur la liberté de la presse, comme notamment des dates clés, comme 1881. Donc c'est la première loi sur la liberté de la presse. Ça nous a aussi appris à faire une revue de presse.
Ça nous a aussi permis de développer notre culture générale et de savoir un peu où il faut chercher les informations et quelles sont les bonnes et quelles sont les fausses et ainsi vérifier nos sources.
Avec ESOP aussi, on a pu apprendre la presse anglo-saxonne et le fonctionnement à l'étranger parce que du coup, nous, en tant que Français, on est peut-être surtout ciblés sur la presse française et avec ESOP, on est aussi parti du côté anglo-saxon et c'était super cool.
Est-ce que l'option ESOP était à la hauteur de vos attentes du coup ?
Moi, j'ai été un peu déçue parce que je pensais vraiment qu'on allait faire un peu plus de politique, un peu plus de culture et on est vraiment resté que sur la liberté de la presse malgré que ça soit super intéressant.
Moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Elena, je m'attendais à plus de choses politiques mais ce qu'on a fait c'était tout aussi intéressant donc
Moi j'ai été agréablement surprise, même si je m'attendais pas du tout à ça, ça m'a quand même plu et on a découvert plein d'autres choses.
Ambre, Elena, est-ce que le fait que vous attendiez à plus de cours sur les enjeux politiques, soit par rapport à notre actualité?
J'ai pas compris la question.
Par exemple, actuellement, on parle souvent de la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est à cause de ça que vous auriez voulu parler de plus de politique?
Pas forcément vouloir plus parler, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'on parle à des débats de nos jours actuellement, ou même qui datent d'il y a un peu plus longtemps. Donc,
Oui, ou on aurait pu revenir sur la Coupe du Monde. Enfin... il y avait plein de sujets qu'on aurait pu faire. Enfin, je pensais vraiment qu'on pouvait faire des débats et voir les différents points de vue de chacun. Un peu comme une revue de presse.
D'accord. Et comment on s'inscrit à cette option ?
Pour s'inscrire à l'option ESOP, on a une lettre de motivation à faire et à mettre dans notre dossier d'inscription. Et c'était assez agréable à faire, ça nous challenge un peu.
L'année prochaine, que souhaitez-vous faire et souhaitez-vous continuer l'option ESOP?
Moi, personnellement, je vais prendre l'ESP mathématiques, physique et H2GSP, donc c'est histoire, géopolitique et sciences politiques. Et je ne pense pas continuer ESOP.
Pourquoi?
C'est pas forcément quelque chose qui me plaît et j'aimerais bien essayer d'autres choses.
Moi, l'année prochaine, je fais SP théâtre, H2GSP, donc pareil, géopolitique, et LLCE, donc de l'anglais et littérature. Et du coup, j'arrête ESOP parce qu'en H2GSP, c'est un peu une partie d'ESOP. Enfin, en ESOP, on fait une partie d'H2GSP. ESOP, c'est un peu le concentré d'H2GSP.
Personnellement, je vais prendre H2GSP, SES et HLP, donc humanité, littérature et philosophie. Et je vais continuer l'option ESOP.
Merci de d'avoir répondu à nos questions et merci de nous avoir écoutés.
Merci.
ESOP.
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 Alors Camille, qu'allons-nous faire maintenant ?
Maintenant, nous laissons la parole à Nussie et Pauline pour leur revue de presse.
Dans cette revue de presse, nous nous intéresserons à la façon dont la presse écrite traite de l'émergence d'un nouveau groupe nationaliste en Corse. Pour cela, je laisse la parole à ma camarade Lucie.
Merci Pauline. Depuis plusieurs mois, la Corse est victime d'une vague d'attentats et d'incendies criminels signée par une nouvelle organisation indépendantiste nommée GCC pour Juventu Clandestina Corsa, ce qui donne en français « Jeunesse Corse Clandestine ». Dans un article publié le 8 février 2023, Corse Matin dévoile que le premier fait de vandalisme datant du 4 août 2022 marque le début d'une longue liste. Le groupe armé clandestin revendique en effet près de 17 attentats et de nombreuses dégradations ou tags.
Savons-nous quelle est leur cible ?
Eh bien, d'après Libération, les lieux visés par ces destructions sont principalement des résidences de Français vivant dans l'Hexagone. Le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Stepp, déclare dans Le Monde le 9 mars 2023 que leur zone d'action est très ciblée et concerne, je cite, « essentiellement la Corse du Sud, particulièrement le Grand Ajaccio et les limites de la Haute-Corse ».
Alors, comment procèdent-ils ?
Leurs actions sont réalisées suivant une méthode simple et efficace, bien que rudimentaire selon Le Monde. L'article explique en détail ces procédés qui consistent seulement en, je cite, « quelques litres d'essence, une allumette et une manipulation qui ne nécessite pas la compétence d'un artificier ».
Les médias prennent-ils au sérieux ces attaques ?
Dans les faits, pas vraiment. Car malgré le soin apporté à ces attaques, Le Monde ne peut s'empêcher de révéler l'amateurisme du groupe en décrivant leurs opérations comme une série d'attaques ciblées, quoique un peu désordonnées. Le journal national ne perd pas non plus l'occasion de rappeler, avec une pointe d'ironie, le faible impact des actions du groupe, qui d'après eux sont des actes spectaculaires et sporadiques, mais pas encore d'actions de grande envergure. La Provence rajoute son grain de sel le 13 janvier dernier, en s'appuyant sur le fait que les actions du GCC sortent des sentiers battus. Le journal précise même qu'elle bouleverse les habitudes de la clandestinité. Malgré tout, il faudra attendre le mardi 8 février 2023 pour que ces actions soient officiellement revendiquées par le groupuscule. C'est effectivement dans un communiqué reçu par nos confrères du journal Corse Matin que le GCC endosse la responsabilité de toutes les dégradations et exprime la véritable nature de leur organisation via une constitution.
Et que nous révèle cette fameuse constitution ?
Eh bien, c'est un jour plus tard que le Figaro nous donne plus d'informations sur ce fameux communiqué qui serait, selon eux, un document de 3 pages, contenant quelques lignes d'une argumentation sommaire. Le texte nous annonce en quelques mots la couleur de ce nouveau groupe qui, en dépit de son amertume envers eux, reprend la lutte du FNLC avec des revendications telles que la lutte contre la drogue et la spéculation immobilière. Le Monde appuie sur cette ressemblance entre les deux organisations nationalistes en soulignant la présence d'une, je cite, « phrase zoologique ne démentirait pas le FNLC ». Chose peu étonnante quand on se rappelle que le GCC suit leurs traces comme leurs actions en témoignent. Corse Matin apporte un point final sur cet épisode de la lettre en déclarant que ce document est aux antipodes de la littérature clandestine, comme le révèle la présence d'un, je cite, « français certes moins maîtrisé qu'à la coutume ».
Mais alors, qui se cache réellement derrière ces 3 lettres qui, comme le titrait la Provence, enflamment la Corse ?
Si Le Monde perçoit en ce bras armé pour l'heure sans véritable arsenal ni soldats aguerris des membres jeunes, peu nombreux et déterminés, Le Figaro, lui, va plus loin dans sa réflexion sur l'identité de ces individus. En effet, le journal vante l'irruption d'une jeunesse radicale, résultat des tensions qui déchirent le pays.
Quelque chose à tirer de tout cela ?
En somme, l'arrivée de ce nouveau groupe clandestin, prêt à tout pour faire entendre sa voix, ravive la flamme révolutionnaire de la jeunesse corse. C'est en alliant force de frappe et désir de communication que le groupe s'impose, comme l'illustrent ses fréquentes prises de parole dans la presse régionale. Et comme le conclut le Figaro, cette série d'actions revendiquées acte l'instauration d'un nouveau cycle de lutte armée, raison pour laquelle le parquet national antiterroriste prend cette affaire très au sérieux.
Merci Lucie et Pauline pour cette belle revue de presse. Mais dis-moi Camille, est-ce que ça serait pas l'heure de
la pause musicale ?
Nous allons maintenant vous passer la musique All the Things I Couldn't Say.
This foolish wish that can't be true keeps pushing me forward. I want to cherish you. I want to be with you.
Toujours sur Radio Campus 88.3 ?
Oui.
Alors, Camille, dis-nous, quelle est la suite du programme ?
Maintenant, je laisse la parole à Florian et Armand qui vont nous présenter leur revue de presse.
Bonjour Armand. Tu vas aujourd'hui nous parler du groupe Wagner. Peux-tu nous en dire plus ?
Bonjour Florian. En effet, depuis quelques années, le monde découvre l'existence du groupe paramilitaire Wagner, groupe armé proche du Kremlin. S'implantant en Afrique ou plus récemment dans le conflit russo-ukrainien, sa légitimité est très critiquée de par ses modes opératoires et les nombreuses exactions dont il est accusé.
Et pourquoi ses activités sont-elles critiquées par la presse ?
En effet, dans un article du Monde du 27 février 2023 d'Emmanuel Greenspan, ce dernier décrit le groupe Wagner comme ayant une emprise grandissante et se livrant à de multiples exactions. Par exemple, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et même l'Organisation des Nations Unies ont pointé du doigt de nombreux cas de torture, de viol et d'exécution allant de l'Ukraine au Mali.
On entend régulièrement parler d'un certain Prigogine. Qui est-il exactement ?
Effectivement, comment parler de cette armée privée sans évoquer son chef, Evry Prigogine, figure vitale dans l'émancipation du groupe.
Et l'Occident le voit-il d'un bon œil ?
Eh bien non. Evry Prigogine, le vendeur de hot-dog devenu chef de guerre, titré le Guardian le 23 février 2023. On voit que le journal ne glorifie pas l'oligarque russe, puisqu'il va même jusqu'à le qualifier de quinquagénaire au crâne rasé et au langage fleuri, que la plupart ne connaissent que comme entrepreneur chargé de contrats de restauration.
Pourquoi Wagner est-il si mal vu ?
Ces opinions très péjoratives sur Wagner et son chef ne sont pas étonnantes, car en plus de ses activités douteuses, son mode de financement est également très obscur. Étant une organisation privée, Wagner se paie grâce à de juteux contrats d'exploitation des ressources minières des pays protégés, d'après La Tribune, le 28 février 2023. D'ailleurs, on peut prendre l'exemple du Soudan du Sud et de son or grâce auquel, en échange de matériel militaire, la Russie et Wagner sont dispensés de taxes et peuvent par conséquent s'enrichir et alimenter leurs caisses. En outre, ces contrats permettent peu à peu aux groupes privés de se développer en Afrique, laissant de moins en moins de place aux Occidentaux qui sont mis à l'écart et ne sont plus les bienvenus.
Le développement de l'organisation est-il dû à l'ingérence de l'Occidentale ?
Exactement. Depuis quelques temps, avec le retrait des forces américaines d'Afghanistan et françaises au Sahel, un mouvement de contestation anti-occidentaux prend de l'ampleur dans les pays centrafricains, laissant la voie libre pour Pékin et Moscou. Les régimes en place, issus de coups d'État comme au Mali, se sentant proches de la Chine et de la Russie, multiplient les échanges et préfèrent recevoir leur aide pour lutter contre le djihadisme, mais surtout rester au pouvoir. De plus, cherchant à s'ancrer en Afrique, Evry Prigogine joue les moralisateurs, car c'est maintenant sur le web que Wagner tisse sa toile.
Comment Wagner réussit-il à surfer sur cette vague de contestation ?
En jouant de la subtilité, le groupe met en scène tout un tas de vidéos critiquant la France et se montrant en sauveur. Le journal sud-africain Daily et Guardian, le 15 mars 2023, nous décrit une vidéo où on voit un serpent géant aux couleurs du drapeau tricolore français cracher que la France veut conquérir toute l'Afrique. Wagner touche à une corde sensible des pays qu'il a dans son collimateur en essayant de créer ou de raviver un sentiment anticolonialiste vis-à-vis des Français, notamment au Rwanda ou en Côte d'Ivoire.
La communauté internationale reste-t-elle de marbre face à ces accusations ?
Non, ces actions qualifiées de violation des droits de l'homme ne restent pas impunies. En effet, de nombreuses sanctions visant le groupe ont été adoptées par l'Union européenne. Courrier international le 27 février 2023 nous explique qu'un nouveau volet de sanctions à l'encontre de l'organisation qualifiée de terroriste par de nombreux pays comme l'Ukraine et les États-Unis ont été adoptées.
Il est donc difficile de qualifier de simple organisation criminelle.
Oui, en effet, le groupe Wagner est plus qu'une simple milice armée. Ses rouages et ses liens avec le Kremlin sont complexes, mais on voit bien que ses activités ne sont pas inconnues aux yeux du monde, même si peu de réelles sanctions sont adoptées.
Merci Armand et Florian. Comment ça va, Déborah ?
Ça va super, merci Camille. D'ailleurs Camille, dis-nous, c'est quoi la suite ?
Maintenant, place à l'interview Les Jeunes et l'Info, présentée par Lucas.
Je m'appelle Lénora Meunier, je suis en seconde 4 au lycée Voltaire.
Je m'appelle Lucille, je suis en seconde 4 au lycée Voltaire.
Je m'appelle Lina Koulou, je suis en seconde 16 à Voltaire.
Je m'appelle Marthe, je suis en seconde 3 à Voltaire.
Je m'appelle Mathéo, je suis en seconde 4 à Voltaire.
Je m'appelle Anvidal et je suis en seconde 3 au lycée Voltaire.
Je m'appelle Elena Goguet et je suis en seconde 4 à Voltaire.
C'est quoi Aesop ?
Bah Aesop, c'est un dispositif où cette année on a appris vraiment comment fonctionnait la presse, presse écrite, comment fonctionnait une revue de presse. Et nous on nous l'a présenté aussi parce que c'était ciblé aussi un peu Sciences Po pour tout ce qui était études de journaux.
Peut-être nous guider sur les manières de s'informer. Et puis nous montrer les problèmes aussi, parce que si on n'est pas averti, je pense qu'on n'y fait pas forcément, on n'y prête pas forcément attention.
On a surtout travaillé sur la liberté de la presse. Donc on a fait une exposition virtuelle en début d'année. Et mon sujet, c'était sur la loi de 1881, avec la loi qui définit la liberté de presse. Du coup, on a appris un peu tout ce qu'il y avait avant, enfin toutes les lois, tous les actes royaux mis sous l'Ancien Régime qui censuraient un peu la presse. Et avec la loi de 1881, la liberté de la presse, du coup, et tous les dispositifs qui ont été mis en place pour la protéger.
Après, on apprend aussi à faire des exercices de recherche, comment chercher l'information, ou du coup, en faisant une revue de presse, on a appris comment en faire une, aller chercher dans les articles, dans des plateformes fait exprès, comme Europresse, que je ne savais pas du tout que ça existait.
On fait une revue de presse en allant s'informer et en allant chercher plusieurs articles sur un même sujet. Par exemple, moi, j'ai fait une revue de presse sur les faux centres de maternité aux États-Unis ou bien dans le monde anglophone en général. Et on a essayé de prendre deux points de vue totalement opposés en voyant les points de vue qui sont libertins et les points de vue qui sont républicains. Et donc moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que du coup, on devait prendre des citations, les expliquer et on devait aller prendre d'autres citations, peut-être qui sont totalement opposées ou bien qui sont d'accord avec la citation dans le dessus et expliquer pourquoi, le pourquoi du comment. Et voilà, personnellement, j'ai beaucoup aimé cette activité.
Le principe, en fait, d'une revue de presse, c'est de... C'est sur un même sujet de voir plein de points de vue différents et après le journaliste peut donner son point de vue mais du coup il n'est pas neutre et souvent c'est au lecteur de se faire sa propre opinion grâce à tous les points de vue présents dans l'article.
Bah, ça va me servir à choisir les informations d'où ils viennent, de savoir maintenant je sais que certains journaux sont de droite ou de gauche, que du coup, je pourrais juste choisir.
Est-ce que vous écoutez la radio ou vous lisez des articles de presse quotidienne ou presse régionale ?
Moi, c'est Elena et je m'informe principalement sur TikTok avec Hugo Décrypte. Comme ça, ça me permet d'avoir les informations du jour très rapidement. Ça ne me prend pas beaucoup de temps. Bah, c'est rapide et c'est concis. On sait à peu près tout. Enfin, pas tout, mais c'est... Ouais, les infos importantes, la journée.
C'est Marthe et je suis Hugo Décrypte et Gaspard G. Donc Gaspard G sur YouTube et Hugo Décrypte sur TikTok, Instagram. Enfin, comme Gaspard G sur Instagram et sur TikTok, et sur YouTube. Et du coup, Gaspard G, ces informations, elles sont courtes comparées au journal qui passe à la télé le soir. Bah, du coup, c'est, des fois, il y a des titres qui ne sont pas forcément très intéressants ou qu'on voit tout le temps, toute la semaine, tous les jours. Alors qu'avec Hugo Descryptes, on découvre les nouvelles actualités qui ne sont pas forcément dites au JT de TF1 ou France 2.
Et aussi, c'est sur le fil d'actualité. Si on regarde sur TikTok ou même sur Insta, c'est sur un fil d'actualité qui apparaît automatiquement. Donc, parfois, on n'a pas le réflexe d'aller regarder les actualités du jour. Et donc, quand c'est sur TikTok ou sur Insta, ça nous le met automatiquement.
Moi, c'est Mathéo et je m'informe essentiellement sur le journal de TF1 parce que mes parents regardent. Vraiment beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes qui sont abordés. Et je trouve que c'est assez clair.
Bah, pour moi, TF1, c'est pour les vieux. Donc, oui. Mes grands-parents qui regardent, donc je ne regarde pas beaucoup, en fait. Donc, c'est juste France 2 le soir, c'est tout.
C'est pareil, parce que France 2, c'est public et TF1, c'est privé. Donc, TF1, ils ont le droit de dire, entre guillemets, les informations qu'ils veulent. Après, moi, je regarde TF1, mais du coup, on n'a pas... Enfin, France 2, ils vont plus être, entre guillemets, neutres. Ou dans la ligne de l'État, alors que TF1, ils vont dire ce qu'ils ont envie et ce qui peut aussi rapporter en fonction de... Vu que c'est privé, c'est aussi pour l'argent. Enfin, je pense qu'il y a des choses comme ça.
Principalement sur Twitter et j'ai pas vraiment... J'apprécie pas réellement les journaux télévisés comme par exemple M6 ou TF1, sachant que j'estime qu'ils manipulent un peu leur public. La façon de voir par exemple les quartiers... les banlieues qui sont défavorisées, par exemple parisiennes dans le 93 ou autres. Du coup, j'apprécie pas spécialement ça. Je vais principalement m'informer du coup sur Twitter, par exemple avec le compte Média Info qui est super bien, qui diffuse des informations jusqu'à 5h ou des fois un peu plus tard et je trouve ça super pratique.
Aesop.
Vous allez désormais écouter Cosmic Girl de Jamiroquai.
Avec Camille
et Camille sur Radio Campus 88.3.
Après cet instant musical, un peu de sérieux.
Maintenant, nous laissons la parole à Elisa et Candice pour leur revue de presse.
Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre revue de presse.
Voici notre problématique. Comment la presse traite-t-elle le sujet de l'éducation des femmes en Afghanistan ?
Nous devons défendre les femmes afghanes. Ce sont les propos recueillis par le journal Ouest France venant de l'américain Michael Berry, spécialiste de la culture afghane qu'il considère comme ses racines.
En effet, la reprise du pouvoir par les talibans en fin 2021 apporte des changements plus qu'inquiétants. Le droit à l'éducation, inscrit dans la Convention des droits des enfants, a été privé à plus de 3 millions de jeunes filles.
Cela engendre non seulement des répercussions économiques, mais impacte aussi l'avenir de la société du pays. D'après le journal Télérama, les Afghanes qui se rêvaient médecins, ingénieurs ou professeurs ont été bloqués. Car effectivement, depuis mars 2022, les femmes afghanes n'ont plus accès à l'éducation après l'âge de 12 ans.
Mais elles ne sont pas seulement bannies des écoles. Les femmes et les jeunes filles en Afghanistan voient leurs droits supprimés. D'après le journal L'Express, elles n'auraient plus la possibilité de conduire, travailler, aller au parc, au bain public, au restaurant ou même à l'école.
La presse anglophone s'est elle aussi penchée sur la problématique. Le journaliste Tariq Akhil écrit dans le journal national du Pakistan, Pakistan Observer, que le Taliban considère toute forme d'éducation pour la femme comme perte de temps et qu'elle devrait à la place rester chez elle pour élever les enfants.
Pourtant, le journal The Nation nous informe que les femmes jouent un rôle fondamental dans la politique, l'économie, la société en général du pays et que leur retirer ce minimum de pouvoir en leur interdisant des études supérieures pourrait engendrer de graves conséquences.
En effet, le journal Télérama affirme que, je cite, « on devrait assister très vite à une recrudescence des mariages forcés et des grossesses précoces, car c'est ainsi que de nombreuses jeunes filles afghanes se retrouvent désinformées et négligées et sont alors plus exposées à la mortalité infantile. »
De nombreux journaux parlent également de jeunes filles bravant les règles pour s'instruire. C'est ce que nous indique Sahar, 15 ans, dans son témoignage partagé dans le journal L'Express. « Tous les jours, je change de chemin pour éviter d'être suivie. Il y a des filles qui ont cessé de venir, car parfois on se fait arrêter par les talibans et ils nous frappent. On risque notre vie pour aller à l'école. »
D'après le journal Le Figaro, Les pays voisins se seraient eux aussi exprimés sur la situation des femmes en Afghanistan. Le Qatar nous confie sa préoccupation et sa déception et appelle les talibans à lever cette interdiction. De même, l'Arabie saoudite nous partage sa surprise et ses regrets devant la décision du gouvernement afghan de nier aux filles le droit à l'éducation supérieure. Cela prouve l'implication des pays voisins dans cette affaire et leur inquiétude vis-à-vis des conditions des jeunes filles en Afghanistan.
De telles mesures radicales soulèvent l'indignation auprès des populations extérieures à travers le monde. Elles font l'objet de trocs, sont échangées comme on le ferait d'une jument de race, relève le journaliste Patrice Moyon dans le journal Ouest France, qui souligne ici les actes inhumains des talibans.
Le journal Pakistan Observer ajoute que la population de l'Afghanistan est majoritairement analphabète, non employée et crie famine alors qu'ils sont totalement abandonnés par le gouvernement taliban et par le reste du monde. Les femmes afghanes ont plus que jamais besoin d'une aide financière ainsi que le soutien du monde entier.
De plus, il est écrit dans le journal The Nation qu'il n'existe pas de restrictions sur l'éducation des femmes dans les lois islamiques et c'est la raison pour laquelle les règles des talibans n'ont pas de sens.
Dans le même article, nous pouvons lire que les talibans devraient impérativement laisser les femmes et jeunes filles afghanes aller à l'école, car environ la moitié de la génération future sera composée de femmes, donc elles auront un rôle décisif à jouer dans le développement du pays. On peut en conclure que l'accès à l'éducation chez les femmes en Afghanistan serait bénéfique pour ces dernières, mais aussi pour ce pays qui peine à se développer.
Cela fait presque 2 ans que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Depuis août 2021, de nombreuses choses ont changé dans le pays et de nombreux articles francophones ou bien anglophones ont été là pour nous en informer. Nous avons donc eu l'occasion d'étudier plusieurs points de vue, cependant arrivant à la même conclusion. Les restrictions des talibans vis-à-vis des femmes peuvent donc avoir de lourdes conséquences sur les femmes elles-mêmes comme sur le pays. Les articles que nous avons étudiés nous le montrent bien. La presse traite ce sujet d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue humaniste, pointant du doigt les mesures absurdes des talibans face à l'éducation des femmes.
Elle nous partage aussi l'opinion publique qui aurait une forte influence sur des décisions futures. Elle nous dévoile aussi de nombreux témoignages de jeunes filles afghanes qui nous renseignent sur l'avenir de ce pays en crise. Ces articles prouvent l'implication de la presse dans cette affaire et nous montrent donc que cette problématique concerne tout le monde et que ses conséquences sont d'une immense gravité.
Nous vous proposons maintenant d'écouter la chanson « Cool » des Jonas Brothers.
Top to the bottom, just cool. Every little thing that I do, damn it, I'm feeling so cool. Yeah. Woke up feeling like a new James Dean. I comb my hair like an old school scene. Feeling high like a late night summer in last year. Yeah. Standing there with the red dress on, yeah. I kill a queen like a young Jane Fonda. Is it me? Just cool. Every little bit that I do, damn it, I feel so cool.
toujours là sur 80.3. On devient vite accro à Radio Campus, n'est-ce pas? Vous inquiétez pas, vous pouvez nous retrouver sur orléans.radiocampus.org pour retrouver nos podcasts, nos playlists, ainsi que les actualités. Maintenant, je crois qu'il est temps de passer aux remerciements.
Nous remercions Stephenson, Olivia, Samia, Marthe, Ambre et Elena.
Nous remercions également Lucie, Pauline, Manon, Florian et Armand.
Et enfin, nous remercions Marine, Elisa, Candice et Rose.
Sans oublier l'équipe technique.
Chloé, Lucille et Mathéo.
Margot, Salomé, Lina. Et bien sûr, on n'oublie pas Monsieur Fauvel, Monsieur Loger et Madame Corbin. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio Campus.
Radio Campus 88.3 FM.
Le moulin à parole. Restitution de l'atelier radiophonique et paroles partagées. Le moulin à parole.
Martin, I'm feeling the Lauren, yeah.
We looking expensive, playing some tennis, we smoking the foreign, yeah.
I'm looking pensive, pop is offensive, ace in the corner, yeah.
We wearing nice suits, we looking mad cute.
We looking mad cute.
She's in the best mood, she don't give attitude.
She don't give
yeah,
attitude.
She got the best moves, look at her back too.
Look at her back too.
She dig it real good, she's in a good mood. She got planes in the ocean.
She got planes in the ocean.
Cause she fuck with a prophet. Cause she fuck with a prophet. She fuck with a kid too.
Too much to say, I don't give a shit, my bars are too long. Cause I'm the one writing the song, that ain't a problem. Batman and Robin, the kid and the prophet, that's how it belongs. All of our days so fun, on the JBL, it's West Side Gun. And the best times come, we don't expect. Out in the suns, my face got
yeah,
red.
Me and the prophet, we about to make bread.
All of our colleagues about to get fed.
One of them called you a commie instead.
I must be 25 light years ahead. Fuck
up with that.
Playing tennis with Pav.
Then we go back to the lab.
Remember that bitch, man, she called you a wop. Oh yeah, that was fucked up.
Homophobes get slapped up.
Man, it's 2020, love is love.
I love bitches and weed. Don't call me Pavis Matisse.
Tell us who fucking will weed. I got my eye on the streets. I'm like James Blake with a backhand.
Well, I'm killing these beats. She got planes in the ocean. Cause she fuck with a prophet.
Cause she fuck with a prophet.
She fuck with a kid too.
She fuck with a kid too.
So we get in the prophet.
We get in the prophet.
She got planes in the ocean.
She got planes in the ocean.
Cause she fuck with a prophet.
Cause she fuck with a prophet.
She fuck with a kid too.
She fuck with a kid too.
So we get in the prophet.
She's going